Il est 22h, vous écoutez Europe 1. Et le journal de la nuit, tout de suite.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir, hommage national au sergent Maxime Blasco, mort au combat contre des djihadistes au Mali. Emmanuel Macron présidait la cérémonie aux Invalides. Le gouvernement veut se donner les moyens de prolonger le pass sanitaire, potentiellement jusqu'à l'été prochain. Il faudra peut-être vivre avec plus longtemps qu'espéré. Les Républicains s'écharpent sur la réponse à apporter à Éric Zemmour, qui cible maintenant LR. Le député Damien Abad lui propose un débat et s'attire les foudres dans son parti. Le torchon brûle entre Paris et Londres sur la question des licences de pêche et sur front de Brexit mal réglé. De nombreux pêcheurs français attendent toujours le renouvellement de leur autorisation de travailler en eau britannique, autorisation qui expire demain. La PMA désormais autorisée pour toutes les femmes et déjà les files d'attente s'allongent dans les centres de procréation médicalement assistés. Pour la première fois, une femme nommée première ministre en Tunisie. Le portrait de Najla Bouden à suivre dans ce journal. Air France découvre les vertus de l'A220, premier exemplaire inauguré ce mercredi dans la flotte Air France. Il est moins gourmand, moins bruyant, moins polluant. La météo de ce jeudi sera calme et ensoleillée, vous dira Marlène Duret. Après ce journal, l'invité éco à 22h20, Nicolas Dupeux, le patron de l'Accor Arena à Paris qui cherche à se réinventer après la crise. Enfin, nous verrons ensemble les unes de la presse. D'abord donc l'hommage national à Maxime Blasco cet après-midi à l'hôtel des Invalides, cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Le chasseur alpin a été élevé au grade de sergent à titre posthume. Maxime Blasco a été tué au combat vendredi dernier au Mali face à un groupe djihadiste. Au début de l'été, il avait été décoré pour la valeur exceptionnelle de ses services. Jacques Serret, vous avez assisté à cet hommage aux Invalides.
Oui, une cérémonie très sobre, très émouvante aussi. Dans la cour de l'hôtel des Invalides, les compagnons d'armes du caporal-chef Maxime Blasco, sa famille, sa compagne Alexandra et son fils de 8 ans. Face à la dépouille de son père, le jeune garçon arbore sur sa tête la tarte, le béret des chasseurs alpins. Emmanuel Macron s'avance.
Ouvrez le banc !
Pose ses mains sur le cercueil orné d'un drapeau tricolore avant de prononcer ces mots.
Sergent Maxime Blasco, au nom de la République française, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur.
Dans les coursives des Invalides, Côme et Édouard, deux jeunes militaires retiennent leur souffle.
C'est une forme d'abandon, une forme de vie donnée à la nation qui est assez impressionnante.
Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de paroles, de toute façon, quand on voit ce qu'il a fait pour la France.
Dans un silence pesant, le cercueil sort des Invalides. Le caporal-chef Maxime Blasco, nommé sergent à titre posthume, recevra un autre hommage demain à Vars, en Isère, par ses frères d'armes du 7e bataillon des chasseurs alpins.
Jacques Serret à l'hôtel national des Invalides, donc pour cette cérémonie d'hommage national au sergent Maxime Blasco. Le pass sanitaire pourrait bien s'installer dans nos quotidiens au-delà du 15 novembre. Le gouvernement veut se laisser la possibilité de le maintenir, oui, jusqu'à l'été prochain. Il va demander au Parlement la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Un projet de loi sera présenté le 13 octobre en Conseil des ministres. Concrètement, ça veut dire que le pass sanitaire pourra être étendu au-delà de la présidentielle, Louis Dragnel, mais ce ne sera pas forcément le scénario retenu.
Tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gouvernement l'a toujours dit, le pass sanitaire sera levé dès que les conditions le permettront. Ensuite, dans l'immédiat, pour prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre et surtout se laisser la possibilité de le lever progressivement et territorialement, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de faire adopter une nouvelle loi. Un nouveau texte qui donnera aussi la liberté à l'exécutif de prolonger ce pass sanitaire jusqu'à l'été. Pour une raison simple, à partir de février 2022, l'Assemblée nationale ne siégera plus et ne sera donc pas en mesure de voter une éventuelle extension du pass sanitaire en cas d'aggravation de la situation. Petite précision tout de même, si le pass sanitaire est encore appliqué au moment de la présidentielle, il ne sera pas exigé pour aller voter. Rappelons enfin que certaines mesures commencent à bouger. La préfecture de la Vendée vient de lever l'obligation du port du masque en extérieur sur l'ensemble du département.
Merci Louis. Retenez bien que le pass sanitaire devient obligatoire dès l'âge de 12 ans à partir de demain. Jusqu'ici, il ne s'imposait qu'aux adultes. Dès demain donc, les 12-17 ans devront présenter ce pass dans les mêmes conditions, y compris et en particulier pour les sorties scolaires, dès lors que les élèves se mêlent au public. Comment répondre à Éric Zemmour ? C'est la question qui obsède la droite et qui provoque des discussions houleuses en ce moment chez les Républicains. Éric Zemmour a fait de LR sa nouvelle cible. Il l'accuse de trahir les valeurs du RPR, du gaullisme. C'en est trop pour Damien Abad, le patron des députés LR, propose un débat à Éric Zemmour, les yeux dans les yeux, sauf que cette initiative solo n'est pas du goût de tous chez les Républicains. Alexandre Chauveau.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup regrettent d'abord le manque de concertation. Alors certains affirment que Damien Abad est libre et plaidait effectivement pour un débat franc avec le polémiste. Mais nombreux sont ceux qui trouvent l'initiative suicidaire face à un Éric Zemmour réputé pour ses qualités de débatteur. C'est grotesque et ridicule, assène même un député. D'autres encore jugent que cela revient à céder à l'essayiste qui revendique le fait d'imposer ses thèmes dans le débat public. Écoutez Daniel Fasquel, trésorier des Républicains, invité de Romain Desarbres dans Europe Midi sur Europe 1.
Non, je suis souvent d'accord avec Damien Abad, mais là, pour le coup, je ne partage pas du tout son point de vue. Ce n'est pas la peine de faire de la publicité à Éric Zemmour, il n'en a pas besoin. Et il faut surtout débattre avec les Français, avancer nos idées, plutôt que de vouloir donner un coup de projecteur supplémentaire à Éric Zemmour.
Alors sur Twitter, Éric Zemmour a demandé à Damien Abad pourquoi lui se proposait et pas Xavier Bertrand, par exemple, qui se dit candidat à la présidentielle. On ignore si le débat aura bien lieu, mais cette séquence illustre encore un peu plus la gêne des Républicains face à un Éric Zemmour qui talonne, voire dépasse désormais le candidat LR dans les sondages.
Alexandre Chauveau, le gouvernement s'inquiète de la hausse des prix de l'énergie. Dernière en date, cette nouvelle envolée des tarifs réglementés du gaz, plus 12%. Invité demain soir sur TF1, Jean Castex devrait annoncer des mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. La colère monte chez les pêcheurs français alors que leur licence de pêche dans les eaux britanniques, conséquence du Brexit, expire demain soir. Londres renouvelle ses autorisations de pêcher, mais au compte-gouttes, bien en dessous en tout cas des exigences de Paris, Caroline Baudry, ce qui provoque la colère du gouvernement et des pêcheurs français.
Oui, pour la France, le compte n'y est pas. Sur 169 demandes, seuls 64 bateaux ont obtenu l'autorisation de pêcher près de l'île anglo-normande de Jersey, par exemple. 75 dossiers ont été définitivement rejetés, comme celui de Cyril, un pêcheur normand. Il a pourtant fourni en vain les preuves de son travail dans la zone.
Notre journal de bord électronique, les ventes de criers, je ne rentre pas dans leurs critères qu'ils ont attribués, alors que depuis 2008, je travaillais là-bas. Eux, rien n'a changé pour eux par rapport au Brexit. Et nous, par contre, il faudrait qu'on dégage de chez eux et que ça va pas, quoi.
Les Britanniques refusent de mettre en application l'accord du Brexit tel qu'il a été signé. C'est ce que dénonce Annick Girardin, la ministre de la Mer.
Le Premier ministre souhaite que l'ensemble des ministres identifient, actent les mesures aussi de rétorsion française. J'ai déjà parlé des questions énergétiques, mais parlons aussi des étudiants que nous accueillons en France, du ferroviaire, des flux commerciaux.
Annick Girardin qui en appelle aussi à l'Europe. La ministre se donne 15 jours pour préparer ses ripostes. Sans solution, les pêcheurs français très remontés se disent prêts à aller à l'assaut de l'île de Jersey.
Caroline Baudry, la parole est maintenant aux victimes, aux survivants des attaques terroristes au procès des attentats du 13 novembre 2015. Pendant plusieurs semaines, la Cour d'assises spéciale va entendre des centaines de témoins. Cet après-midi, pour la première fois dans ce procès, des survivants des attaques des terrasses se sont exprimés à la barre, Johanna Chabas, notamment des victimes du bar Le Carillon.
Oui, comme Florian, le 13 novembre, cet étudiant avocat est au Carillon face à la télévision devant le match de football quand vers 21h25, une première déflagration retentit. La voix de Florian, jusque-là calme, casse. Il marque une pause et reprend son récit, la voix tremblante. Ce qu'il entend est une rafale qui ne s'arrête pas. Il essaye de se cacher, mais il est trop grand, trop visible, ça l'inquiète. Pendant une à deux minutes, c'est un bruit continu de balles. L'étudiant se dit que la mort arrive. Il a le temps de se demander quelle douleur provoque une fusillade. Florian entend des tirs saccadés comme si l'assaillant s'acharnait sur les gens en terrasse, puis une portière qui claque, une voiture qui part. C'est fini, s'installe un silence de mort selon le jeune étudiant. Ça sent la poudre, le sang avec une très forte odeur métallique. Florian pose dans son récit, trop ému, avant de reprendre avec la description des cris qui viennent briser le silence de cette impression de patauger dans le sang. Il sort du restaurant, voit les tables retournées, les corps pareils. C'est une scène d'horreur, conclut-il, une horreur à tout point de vue. Il raconte ensuite son suivi psychologique et ses attentes du procès. Il ne vient pas dans un esprit vengeur et se félicite que ce soit fait de manière digne et équitable pour tout le monde.
Johanna Chabas au procès des attentats du 13 novembre 2015.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
La PMA pour toutes est désormais une réalité, aussi bien pour les couples de femmes que pour les femmes seules. Les décrets d'application de la loi ont été publiés ce matin au journal officiel. On savait qu'il existait une attente considérable pour cette avancée, dont acte. les centres de procréation médicalement assistée sont débordés, Virginie Riva.
Oui, déjà près de 3500 demandes alors que le ministère de la Santé tablait plutôt sur 1000. Depuis cet été, déjà les premières patientes ont même pris rendez-vous pour tenter de gagner du temps. Michaël Agopiantz, chef de service de médecine de la reproduction au CHRU de Nancy.
Depuis environ 7 à 8 semaines, alors qu'on était quand même au cœur de l'été, nous avons eu autant de demandes de couples de femmes et de femmes non mariées que sur les 2 années précédentes. Nous nous sommes déjà adaptés aux besoins du personnel, des besoins de matériel dus inhérents à l'augmentation d'activité. Pour l'instant, nous tenons des délais tout à fait raisonnables et nous espérons que l'on va pouvoir conserver ces délais dans les semaines à venir, mais cela dépend plus des futurs donneurs de spermatozoïdes que de nous-mêmes.
Pour les PMA de couples hétérosexuels avec donneurs, les délais étaient de 6 à 18 mois selon les régions. Avec l'entrée en vigueur de la loi, ça risque d'empirer. Le ministère de la Santé va lancer une campagne de communication sur le don de sperme.
Virginie Riva, c'est une première en Tunisie et même dans les pays du Maghreb. Une femme a été nommée première ministre par le président tunisien Kaïd Sayed 2 mois après le limogeage du précédent cabinet. Najla Bouden a pour elle un profil atypique au CNTR. Elle n'appartient pas du tout au sérail politique.
Oui, Najla Bouden est totalement inconnue du grand public tunisien. Cette discrète universitaire de 63 ans, lunettes rondes et collier de perles autour du cou n'est pas une habituée des sphères politiques. Najla Bouden est une ingénieure au parcours brillant. Elle obtient un doctorat en géologie à l'école des mines de Paris, puis elle enseigne cette discipline à l'école des ingénieurs de Tunis et occupe en parallèle le poste de chef d'unité au ministère de l'Éducation supérieure. Un profil très académique, sa nomination est donc une surprise, mais toute la question, c'est de savoir dans quelle mesure la nouvelle première ministre aura une marge de manœuvre à son poste. Elle est censée former un nouveau gouvernement le plus vite possible, mais d'après un décret présidentiel du 22 septembre, le président Kaïs Saïed aura le dernier mot dans le choix des ministres.
L'Algérie convoque l'ambassadeur de France, une protestation contre la décision de Paris de réduire le nombre de visas accordés aux pays du Maghreb, pays qui refuse de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière expulsés du territoire français. Un nouveau venu dans la flotte des avions Air France. La compagnie a inauguré ce matin son premier exemplaire d'Airbus A220 Made in Canada dans les usines Bombardier. L'A220 est un avion de nouvelle génération, moins gourmand, moins polluant et moins bruyant. Aurélien Fleureau a assisté ce matin à l'inauguration de cette nouvelle pépite de la flotte Air France.
Le premier d'une longue série, cet A220 baptisé Le Bourget, a donc été dévoilé dans un immense hangar d'Air France Industrie ce matin à Roissy. La compagnie va en recevoir 5 de plus d'ici la fin de l'année et 15 l'an prochain, avec de sérieux arguments pour incarner une aviation moins polluante, estime Benjamin Smith, le PDG du groupe Air France KLM.
C'est moins 20% carburant, moins 20% CO2, moins 34% en termes de bruit. C'est vraiment quelque chose de nouvelle génération et ça va nous aider d'être beaucoup plus concurrentiel ici en Europe et dans le domestique.
60 A220 d'ici 2025. Jamais un renouvellement de flotte n'aura été aussi rapide. Une relance par l'innovation qui a été notamment permise par l'aide conséquente de l'État pendant la crise, 7 milliards d'euros. Air France, Airbus, les efforts de l'industrie aéronautique française ont été salués par Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports.
Nous devons être au rendez-vous de nos objectifs environnementaux. Et donc cet avion, il participe de tout cet esprit de reconquête et il crédibilise aussi les engagements collectifs que nous avons pris pour la décarbonation de l'aviation.
Premier vol commercial de l'A220 d'Air France le 31 octobre, direction Berlin, puis Madrid, Barcelone ou encore Venise.
Aurélien Fleureau, la Ligue des Champions, le LOSC mené au score 2-0 face à Salzbourg. Les Lillois nettement dominés par les Autrichiens, eux-mêmes invaincus depuis le début de la saison en Bundesliga. Les Jeux Olympiques de Pékin se dérouleront sans spectateurs étrangers du 4 au 20 février prochain à cause du Covid. Ces JO d'hiver seront donc réservés au public chinois, annonce le Comité international olympique. Un coup d'œil sur la météo pour demain.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur? Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien? Les Seychelles vous présentent la météo.
Le temps pour ce jeudi, Marlène Duret, c'est du beau temps hein, sur une grande partie du pays.
Oui, l'après-midi, indubitablement.
mais la matinée débutera sous un ciel chargé, avec parfois quelques ondées. Où ça? Alors de l'Aquitaine aux plaines toulousaines jusqu'aux portes du Lauragais. Ensuite, le soleil prendra le dessus. Près des plages girondines et charentaises et en remontant vers la Bretagne, la Normandie et la frontière belge, le ciel sera d'abord partagé entre nuages et éclaircies. Le soleil va jouer des coudes et puis ensuite, eh bien, il s'imposera. Sauf peut-être sur la partie ouest de la Bretagne, parce que déjà, on va commencer à voir venir les nuages. Il y a une perturbation là, qui pointe le bout de son nez. On en reparlera pour vendredi. Et puis sur le reste du pays, donc du beau temps, on notera simplement un voile nuageux depuis l'intérieur des Pays de la Loire, au bassin parisien et au Grand Est. Et puis par endroits, il faudra attendre, comme toujours, la dissipation des brouillards ou nappes de grisaille. Couvrez-vous bien, en tout cas le matin, dans les régions de la moitié nord. On attend pas plus de 1 à 6 degrés hein, sur la moitié nord. Des gelées possibles, a priori, en Bourgogne et dans le Cantal. Et puis l'après-midi, les maximales seront comprises entre 16 degrés à Lille, Nancy, Saint-Dizier et 28 à Saint-Tropez, avec par exemple 17 à Guéret et Mulhouse, 18 à Paris et Clermont-Ferrand, 20 degrés du côté de Cognac, 21 à Toulouse, 25 à Marseille et 27 en Corse.
Merci Marlène, on vous retrouve à minuit pour un dernier point météo. Restez avec nous sur Europe 1 à suivre Top à Wall Street avec Didier Hamon, l'invité éco dans quelques minutes, Nicolas Dupeux, le patron de l'Accor Arena qui relève la tête alors qu'on retrouve petit à petit une vie culturelle normale. A tout de suite.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
À 22h17 sur Europe 1, c'est Top à Wall Street avec Didier Hamon. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street qui retrouve un peu de calme ce soir après un début de semaine difficile.
Oui, c'est plus calme à Wall Street avec des taux d'intérêt qui se détendent un petit peu. C'était monté brusquement en début de semaine. Donc ça se calme avec un Dow Jones en hausse de 0,26%. Un petit rebond à 34 391 points. Le Nasdaq recule quand même de 0,2%. 14 512 points. Le marché reste quand même prudent hein, sur fond de crainte concernant l'inflation toujours. Et puis le bouclage du budget fédéral américain reste problématique. Donc pas beaucoup d'initiatives à l'arrivée. Certaines valeurs de technologie tentent un petit rebond. Apple, plus 0,6%, 142,83$ malgré les inquiétudes sur les délais de production du nouvel iPhone. On a Tesla qui remonte de 0,5%, Microsoft de 0,1%, c'est très timide. Certains titres restent quand même discutés. Facebook, moins 0,3%, Amazon, moins 0,4%, Google, moins 1%. Le pétrole remonte quand même de 0,6%, il est sous les $75 le baril. Et l'euro recule encore à 1,16 et même un petit peu moins, 1,1595 face au dollar.
La Bourse de Paris reprend aussi un peu de hauteur hein, après sa chute d'hier.
Oui, ça avait bien chahuté hier en baisse de 2,1%. Ça remonte un petit peu plus, 0,8%. 6560 points sur le CAC 40. Quelques achats à bon compte ont été notés sur de gros dossiers hein, comme Airbus, plus 3%, Safran, plus 2,5%. On est dans le secteur aéronautique hein, là, qui envoie des signes d'amélioration. Dassault Aviation reprend aussi 2%. Et puis le secteur financier se reprend légèrement, se redresse un petit peu. La Société Générale, plus 2%. AXA, plus 1,5%. La BNP aussi, plus 0,7% ce soir à 55,26€.
Exception du jour, le groupe Lacroix a déçu le marché. Il chute ce soir de 10%.
Oui, le spécialiste de la signalisation et des équipements connectés, Lacroix, chute effectivement de plus de 10% à 40€. La faute à un avertissement concernant ses comptes annuels. Lacroix a révisé en baisse son objectif de marge bénéficiaire, pénalisé en particulier par les pénuries de composants électroniques depuis plusieurs mois. Lacroix en baisse de 10% ce soir à 40,30€ exactement. Les autres places financières sont en léger rebond. Le DAX à Francfort plus 0,7%, Milan plus 0,6%, Amsterdam plus 0,3% et donc le CAC 40 en hausse de 0,83%, 6560 points.
Merci Didier Hamon de Boursier.com. Zoom ce soir sur Europe 1, sur l'une des salles de spectacle les plus célèbres de France. Nous allons voir comment l'Accor Arena se réinvente après la crise sanitaire. L'invité éco ce soir, Nicolas Dupeux, directeur général de l'Accor Arena, qu'on appelle encore volontiers Bercy. Nicolas Dupeux qui répond à Emmanuel Duteil.
Bonsoir Nicolas Dupeux.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de l'Accor Arena. Certains vous connaissent toujours un petit peu mieux sous le nom de Bercy, énorme salle de spectacle, de sport en plein cœur de la capitale. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, Nicolas Dupeux, sur Europe 1, c'est parce que vous êtes en train de tout révolutionner. C'est-à-dire, vous êtes resté fermé, bien évidemment, de longs mois pendant cette crise et vous êtes dit, eh ben, on va imaginer finalement l'aréna de demain. Est-ce que je peux le résumer ainsi ? C'est finalement une aréna qui vit du petit déjeuner jusqu'au beau milieu de la nuit, parce qu'on va faire du coworking chez vous dans les loges d'habitude prévues pour les VIP en journée. On va aller au spectacle, on va aller voir du sport. Et puis une fois qu'on aura fait tout ça, on va aller en boîte de nuit, puisque vous ouvrez également une sorte de boîte de nuit. Et puis bien évidemment, vu qu'on y passe la journée, on va y manger. C'est ça ? C'est du petit déjeuner jusqu'au bout de la nuit ?
Je crois que vous avez parfaitement résumé. Hein. C'est du matin au soir, du soir au matin, tous les jours de la semaine et pour tout le monde. En fait, cette crise, ces 18 mois de fermeture qu'on a subi avec cette crise, nous, on a souhaité aller au-delà de ça et on a souhaité repenser notre modèle, se réinventer et transformer finalement qui l'on était et les activités qu'on faisait. Et donc, effectivement, on ouvre aujourd'hui une multitude d'activités autour de la restauration, autour du divertissement, autour du coworking pour les entreprises, et qui permettent à tout un chacun de se rendre à l'aréna tous les jours de la semaine.
Ce qui est marrant, c'est que jusque-là, quand il n'y a pas de spectacle, on a un peu l'impression que c'est un lieu mort, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un lieu sans vie. Et là, c'est l'inverse. Vous voulez vraiment que ça devienne un lieu de vie du quotidien.
C'est la vision que l'on porte en fait dans notre projet d'entreprise, c'est cette transformation d'un lieu, de ce qu'on appelle nous un lieu d'événement, c'est-à-dire qu'un lieu qui vit les jours d'événement en un lieu de vie, un lieu de destination, un lieu finalement dans lequel on va aller, qu'il y ait de la programmation ou non, et dans lequel on va venir tous les jours et qu'on soit une entreprise pour profiter de bureaux, de coworking au sein quand même d'une arête d'un mythique, ou qu'on soit une famille pour venir y déjeuner et ensuite emmener ses enfants faire du patin à glace dans notre patinoire. Alors, toute la journée, tout le temps.
Est-ce que vous n'étiez pas contraint de le faire au-delà même de la crise ? Et que finalement, cette crise vous a permis peut-être de vous poser, de réfléchir à ces solutions plus vite que ce que vous auriez fait autrement ? Obligé parce que la concurrence à Paris n'a jamais été aussi grande qu'en ce moment sur les salles de spectacle. Il y a une aréna aussi à La Défense, plus grande salle d'Europe. Il y a également la scène musicale qui a pu ouvrir. Il y a la Philharmonie qui a également ouvert. Et finalement, Bercy n'était plus la grande salle. C'était une salle au milieu de plein d'autres.
Alors, oui, dans une certaine mesure, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un panorama de salles qui est assez important. Maintenant, l'Accor Arena, c'est quand même une salle mythique, hein, une salle qui a 38 ans, qui a vu les plus grands artistes. Mais je dirais, ce qui a vraiment nourri notre réflexion, c'est aussi les évolutions des attentes des consommateurs et de nos clients. C'est vraiment ça, en fait, duquel on est parti. On se rend compte que cette crise, elle a bien montré qu'on avait besoin de se reconnecter, on avait besoin de se rencontrer, on avait besoin d'échanger, on avait besoin de lieux dans lesquels on vienne vivre des passions, dans lesquels on vienne se retrouver. Et c'est ça qu'on crée dans ce lieu de destination, on se le dit, c'est un lieu dans lequel on vient pour une passion, la passion de la gastronomie, la passion du divertissement, la passion de la musique, la passion du sport, et on vient vivre un bon moment. Et c'est à ce à quoi on répond aujourd'hui.
En termes de résultats économiques, vous imaginez que ces activités annexes vont représenter quoi à terme par rapport à ce qui reste quand même votre cœur de cible, hein, le sport et les spectacles ?
Alors, on a deux atouts, en fait. Le premier atout, c'est que sur la partie cœur de cible, comme vous le mentionnez, qui est les spectacles. On a un effet report hein, avec la crise. Les concerts ont été reportés. On va avoir à peu près 30% de concerts de plus sur les deux ans à venir. Auxquels on
30% de plus par rapport à quoi ? Par rapport à la période d'avant-crise ?
Oui, par rapport à une année référence comme 2019. Donc on va être sur 160 événements programmés à l'Arena. Et en fait, ce nombre d'événements, on va le doubler avec nos nouvelles activités. Nous, on projette en 2022 300 événements, aussi bien dans l'aréna, des concerts, des événements sportifs, que dans Fantôme, qui est donc la nouvelle salle événementielle que l'on ouvre, que dans le Johnny's Bar, que dans notre nouveau restaurant, la Micoque. On aura à peu près 300 événements qui vont venir rythmer dès 2022, la destination que l'on crée.
Il y a d'autres aventures à venir hein, du côté de l'Accor Arena, puisque vous allez ouvrir l'Arena 2, une salle de 9000 places. Hein, ce sera Porte de la Chapelle, au nord de Paris. C'est vous qui avez gagné la concession. Ce sera, je crois, à l'été 2023. Là encore, une salle en plus, mais pourquoi faire ?
Alors, c'est un équipement en fait qui est construit dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Un équipement qui répond à un besoin, en fait, hein, parce que ça va être une salle multifonctionnelle entre musique sur une jauge assez inédite de 7500 à 8500 places selon les configurations. Et puis, il y aura aussi un club résident de basket, le Paris Basketball. Donc, on va avoir, en fait, si vous voulez, une réponse à un besoin de club résident de basket, de jauge de concert. Là aussi, on estime à peu près, à partir de 2024-2025, accueillir une centaine d'événements dans cette aréna, qui sera plus qu'une aréna, puisque ce programme d'aréna, on va jouxter à l'aréna un lieu de 3500 m², qui sera un lieu qu'on est en train de programmer pour en faire un lieu hybride, un lieu de vie, un lieu dans lequel on va retrouver la restauration, du divertissement.
Donc la même logique, finalement, de pouvoir y vivre toute la journée. Enfin, et ce sera ma dernière question, vous avez un autre énorme défi et qui résonne beaucoup avec l'actualité en ce moment du procès des attentats terribles du mois de novembre, parce que c'est vous qui exploitez aussi la salle du Bataclan et c'est vous qui allez devoir la relancer là, à compter du mois prochain, je crois, à compter du mois de novembre.
Oui, on rachète le Bataclan à compter de début novembre. Ça répond toujours à notre logique d'être des exploitants de lieux mythiques, hein, que ce soit Bercy, l'Accor Arena, la Porte de la Chapelle et désormais le Bataclan. Salle mythique depuis plusieurs dizaines d'années par son histoire, mais aussi bien sûr par ce qui s'est passé avec les attentats. Et avec cette volonté forte d'apporter cette culture de lieu de destination, de réponse à des attentes de consommateurs pour essayer de redynamiser la programmation de la salle et l'expérience qu'on va y vivre. Nous, on y voit un grand enjeu et surtout, on y voit un grand honneur de pouvoir reprogrammer cette salle, reprendre cette salle qui, je crois, fait vraiment partie de l'histoire de Paris.
Eh bien, merci pour tous ces détails. C'était Nicolas Dupeux, le directeur général de l'Accor Arena. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Emmanuel Duteil, merci. On vous retrouve également demain à 13h avec Elisabeth Assayac dans La France Bouge. Vous recevrez Jacques Aschenbroix, le patron de Valeo, l'un des plus gros équipementiers automobiles au monde. L'occasion de parler de la voiture de demain.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Un coup d'œil sur les unes de vos quotidiens. Faut-il miser sur l'éolien ou sur le nucléaire? L'énergie dans la bataille présidentielle. Le Figaro publie demain matin un sondage qui révèle que l'image de l'éolien se dégrade fortement dans l'opinion, alors qu'à l'inverse, celle du nucléaire s'améliore. Voilà donc que le débat s'invite dans la campagne. Vous savez que Xavier Bertrand, mais aussi Marine Le Pen, ont dit très tôt leur vive hostilité à l'énergie éolienne, qu'ils jugent tout à la fois insuffisamment performante et destructrice du paysage, alors qu'à l'autre bout de l'échiquier politique, Yannick Jadot, qui est désormais candidat des Verts à la présidentielle, mais aussi la socialiste Anne Hidalgo, candidate déclarée elle aussi, tiennent un discours inverse. La colère des pêcheurs français à la une de Ouest-France. La France lance un ultimatum à Londres pour la question de la pêche des pêcheurs français en eau britannique. Le Royaume-Uni et l'île de Jersey ont annoncé le nombre de licences de pêche qui seront accordées aux bateaux français. C'est très loin des demandes des pêcheurs. Ces décisions sont jugées inacceptables par Paris, qui appelle la Commission européenne à mettre en place des mesures de rétorsion. Bien évidemment, il y a des emplois en jeu. On vous parlait il y a quelques minutes sur Europe 1 de l'Airbus A220. Petit mais costaud, l'A220, nouvelle arme anti-low-cost d'Air France, titre Les Échos. Conçu par Bombardier, repris par Airbus, cet avion monocouloir est plus moderne et moins gourmand en carburant. Enfin, Libé vous propose demain matin un numéro spécial, un rendez-vous avec Robert Badinter, le chantre de l'abolition de la peine de mort. 40 ans après ce vote contre la peine capitale en France, l'ex-garde des Sceaux a reçu Libération pour évoquer ce moment historique et le combat d'une vie. 22h30 sur Europe 1. Olivier Delacroix vient de nous rejoindre dans le studio. Olivier, bonsoir.
Bonsoir, mon
prêt
cher Alexandre.
Pour votre libre antenne.
Toujours prêt.
Toujours prêt.
Je vous retrouve tout à l'heure à partir de 23h pour votre flash. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.